ICF. Temps de le dire, rediffusion.
Bonjour à tous, aujourd'hui dans le temps de le dire, une question, un autre monde est-il possible ? Face à la crise économique qui mine les entreprises, les familles et les États, devant l'ampleur des bouleversements écologiques que rencontre notre planète, ils sont de plus en plus nombreux à s'interroger. Depuis des années, les sociétés occidentales se perdent dans une course à la consommation effrénée, un appât du gain collectif qui ruine la planète et accentue toujours plus les inégalités sociales. Le contentement de quelques-uns se faisant aux dépens de tellement d'autres. Aujourd'hui, les pays du Sud réclament leur part du festin. Comment allons-nous faire ? Comment mieux partager les ressources et faire que chacun puisse vivre dignement en homme et femme du XXIe siècle ? Quel modèle dessiner pour satisfaire les aspirations individuelles et collectives et assurer la paix dans le monde ? Les réponses ne semblent pas si nombreuses que cela. Encore faut-il pouvoir les entendre, encore faut-il vouloir les entendre. Un autre monde est-il possible ? Nous tentons de l'esquisser ce matin avec sérieux réalisme et, vous imaginez, optimisme. Alors évidemment, vous pouvez vous joindre à nous, interpeller nos invités, leur poser vos questions. Le téléphone, vous le connaissez, 04 72 38 20 23, 04 72 38 20 23, et le mail, le temps de le dire, @rcf.fr, en minuscules et tout attaché.
(9h30, 11h) Toute la vie en question sur RCF.
Et c'est le temps de le dire et c'est parti, j'espère que vous êtes bien là de l'autre côté de votre poste. Alors nous ici on se sent un petit peu seul, hein. J'étais censée avoir 3 invités ce matin, un seul pour le moment est arrivé, ça se passe comme ça quand c'est en direct. Bonjour Bernard Pinault.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes le délégué général du CCFD Terre Solidaire. Délégué général, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire responsable de l'équipe salariée, ça veut dire que je suis à côté du président Guy Orange pour porter l'ensemble de la dynamique du CCFD Terre Solidaire, sa mission, son dynamisme.
Et donc vous êtes un permanent,
c'est Je suis un permanent,
ouais, salarié. Vous êtes là depuis, ça fait un peu plus d'un an ?
Alors je suis délégué général depuis 3 ans maintenant.
3 ans, oh là là.
Mais j'ai tout un parcours au CCFD Terre Solidaire où j'ai été responsable du service Amérique Latine à une époque, le premier directeur plaidoyer aussi, et directeur de la vie associative, c'est-à-dire l'accompagnement de nos 15 000 bénévoles à travers la France.
Alors, le directeur du plaidoyer, ça m'intéresse, on va en reparler.
C'est pour ça que j'en parle.
Dans quelques instants, le CCFD Terre Solidaire, dans quelques jours, c'est mercredi prochain, oui. C'est le début du carême, c'est un temps très important pour le CCFD Terre Solidaire, c'est le cœur de la vie du CCFD.
Tout à fait, parce que il y a 52 ans, les évêques de France ont confié à ce qui s'appelait à l'époque le Comité catholique contre la faim, le fait d'animer pendant le temps de carême, les 40 jours de carême, un temps de sensibilisation des communautés chrétiennes à la nécessaire solidarité avec les pays qu'on appelait à ce moment-là les pays en développement, le tiers-monde. Et donc c'est un temps où nous animons dans les communautés chrétiennes, mais bien au-delà, cette promotion d'une nécessaire solidarité internationale et donc des collectes aussi dans les paroisses. Donc nous allons animer cette 52e campagne de carême et nous ferons venir une quarantaine de partenaires du Sud qui vont sillonner la France pendant 3 semaines.
On explique le terme de partenaire.
Alors partenaires, ce sont en fait des organisations des pays du Sud que nous soutenons, parce que la grande particularité du CCFD Terre Solidaire par rapport à d'autres ONG, c'est que nous avons 0 expatriés, 0
044, c'est ça ?
0 bureau dans ces pays. Et nous soutenons en fait financièrement et par notre accompagnement des organisations des pays mêmes. Ces organisations, ce sont quoi ? Ce sont des organisations de femmes, ce sont des coopératives, ce sont des mouvements paysans, ce sont des syndicats, ce sont des ONG locales. qui, elles, mettent en œuvre des projets de développement qui répondent aux besoins des populations les plus démunies.
Donc des représentants de ces partenaires seront là pendant le carême, ils vont sillonner la France, rencontrer les paroisses, les communautés locales, c'est ça ?
Tout à fait, et puis peut-être même des débats publics bien plus larges que la communauté paroissiale.
Je pense qu'on pourra aussi les entendre sur RCF, sur les ondes des radios locales et du réseau national. Alors, le CCFD Terre Solidaire, ça s'appelle le CCFD Terre Solidaire depuis combien de temps maintenant ?
Depuis 2008.
Depuis 2008, vous l'avez dit, à sa naissance, ça s'appelait le Comité catholique contre la faim.
Oui.
Comment on est passé de l'un à l'autre ?
Alors, de fait, le changement de nom dit aussi une certaine évolution. Hein. Comité catholique contre la faim, nous sommes nés pour justement cette collecte auprès des communautés chrétiennes pour permettre de lutter contre la faim dans les pays dits du tiers-monde à l'époque. Comité catholique contre la faim. Par la réflexion et l'accompagnement, en particulier du père Lebret, qui d'ailleurs est l'un des inspirateurs de l'encyclique Populorum Progressio, qui est vraiment l'encyclique fondatrice, d'une certaine manière, du travail du CCFD Terre Solidaire. Bon, on a bien perçu qu'on ne lutterait pas contre la faim sans promouvoir le développement, que ça passerait par le développement. Et que donc il fallait s'attaquer aux causes, en fait, de la misère et des injustices, et pas seulement essayer de traiter les conséquences. Ça, c'est les années 65. C'est les années du Concile. Hein. Et là, on est passé donc du Comité catholique contre la faim pour le développement des pays du Sud, et d'une certaine manière, par le développement, pour lutter contre cette faim. Bon, on s'est rendu compte au fur et à mesure des années que CCFD était connu dans les milieux catholiques, mais que dans le grand public, CCFD, ça ne voulait pas dire obligatoirement grand-chose. On nous confondait quelquefois avec la CFDT ou avec d'autres sigles. Et il nous a paru important de mettre un prénom à notre nom pour que le grand public puisse identifier la cause de cette organisation. Comme ATD est devenu ATD Quart-Monde. Quand ATD, on ne sait pas obligatoirement ce que c'est, mais le Quart-Monde, on imagine.
Sait ce que c'est, ouais.
Alors la Terre solidaire, justement, pour nous, ça veut dire que la Terre est pour tous et que nous devons la construire ensemble. Nous sommes sur le même bateau, hein, et il nous faut donc construire ensemble cette Terre. Population de France et du Nord et population du Sud. Nous sommes interdépendants. Il n'y a qu'une seule terre, qu'une seule planète, et c'est celle-là que nous avons à construire.
Bon, bah, comme ça, quand on vous entend parler du CCFD, on comprend bien pourquoi je vous ai invité ce matin pour parler d'un autre monde. Est-il possible ? Vous avez parlé des pays du Sud, vous avez parlé de la solidarité les uns avec les autres. Je voulais vous parler un peu de notre émission. Régulièrement, on reçoit tous les jours des gens pour parler de choses et d'autres. Et il y a quelques jours, nous recevions quelqu'un que vous devez connaître, qui s'appelle Pierre Rabhi.
Tout à fait.
Pierre Rabhi, c'est un apôtre de la décroissance. C'est quelqu'un qui parle beaucoup de sobriété, de sobriété heureuse. Avec Pierre Rabhi, on est à un échelon individuel où il faut que chacun change son comportement et ne pas attendre que l'État s'en occupe. Aujourd'hui, dans cette émission, je voulais aller un peu plus loin. Et un autre monde est-il possible ? C'est aussi une aventure collective.
C'est aussi une aventure collective. Bon, Pierre Rabhi a créé plusieurs mouvements, dont le mouvement Colibri, donc il y a aussi une aventure collective. Moi, ce qui me semble, c'est que oui, un autre monde est possible. Et pour travailler à cet autre monde possible, il faut travailler à trois niveaux. Il faut d'abord des changements personnels. Ça commence par soi-même. Et donc des...
RCF. Temps de le dire, rediffusion.
Bonjour à tous, aujourd'hui dans le temps de le dire, une question, un autre monde est-il possible ? Face à la crise économique qui mine les entreprises, les familles et les États, devant l'ampleur des bouleversements écologiques que rencontre notre planète, ils sont de plus en plus nombreux à s'interroger. Depuis des années, les sociétés occidentales se perdent dans une course à la consommation effrénée, un appât du gain collectif qui ruine la planète et accentue toujours plus les inégalités sociales. Le contentement de quelques-uns se faisant aux dépens de tellement d'autres. Aujourd'hui, les pays du Sud réclament leur part du festin. Comment allons-nous faire ? Comment mieux partager les ressources et faire que chacun puisse vivre dignement en homme et femme du XXIe siècle ? quel modèle dessiner pour satisfaire les aspirations individuelles et collectives et assurer la paix dans le monde ? Les réponses ne semblent pas si nombreuses que cela. Encore faut-il pouvoir les entendre, encore faut-il vouloir les entendre. Un autre monde est-il possible ? Nous tentons de l'esquisser ce matin avec sérieux réalisme et, vous imaginez, optimisme. Alors évidemment, vous pouvez vous joindre à nous, interpeller nos invités, leur poser vos questions. Le téléphone, vous le connaissez, 04 72 38 20 23, 04 72 38 20 23, et le mail, le temps de le dire, @rcf.fr, en minuscule et tout attaché.
. 9h30, 11h, toute la vie en question sur RCF.
Et c'est le temps de le dire et c'est parti, j'espère que vous êtes bien là de l'autre côté de votre poste. Alors nous ici on se sent un petit peu seul, hein. J'étais censée avoir 3 invités ce matin, un seul pour le moment est arrivé, ça se passe comme ça quand c'est en direct. Bonjour Bernard Pinault.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes le délégué général du CCFD Terre Solidaire. Délégué général, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire responsable de l'équipe salariée, ça veut dire que je suis à côté du président Guy Orange pour porter l'ensemble de la dynamique du CCFD Terre Solidaire, sa mission, son dynamisme.
Et donc vous êtes un permanent,
c'est Je suis un permanent,
ouais, salarié. Vous êtes là depuis, ça fait un peu plus d'un an ?
Alors je suis délégué général depuis 3 ans maintenant.
3 ans, oh là là.
Mais j'ai tout un parcours au CCFD Terre Solidaire où j'ai été responsable du service Amérique Latine à une époque, le premier directeur plaidoyer aussi, et directeur de la vie associative, c'est-à-dire l'accompagnement de nos 15 000 bénévoles à travers la France.
Alors, le directeur du plaidoyer, ça m'intéresse, on va en reparler.
C'est pour ça que j'en parle.
Dans quelques instants, le CCFD Terre Solidaire, dans quelques jours, c'est mercredi prochain, oui. C'est le début du carême, c'est un temps très important pour le CCFD Terre Solidaire, c'est le cœur de la vie du CCFD.
Tout à fait, parce qu'il y a 52 ans, les évêques de France ont confié à ce qui s'appelait à l'époque le Comité catholique contre la faim, le fait d'animer pendant le temps de carême, les 40 jours de carême, un temps de sensibilisation des communautés chrétiennes à la nécessaire solidarité avec les pays qu'on appelait à ce moment-là les pays en développement, le tiers-monde. Et donc c'est un temps où nous animons dans les communautés chrétiennes, mais bien au-delà, cette promotion d'une nécessaire solidarité internationale et donc des collectes aussi dans les paroisses. Donc nous allons animer cette 52e campagne de carême et nous ferons venir une quarantaine de partenaires du Sud qui vont sillonner la France pendant 3 semaines.
On explique le terme de partenaire.
Alors partenaires, ce sont en fait des organisations des pays du Sud que nous soutenons. Parce que la grande particularité du CCFD Terre Solidaire par rapport à d'autres ONG, c'est que nous avons 0 expatriés. 0
4-4, c'est ça ?
0 bureau dans ces pays. Et nous soutenons en fait financièrement et par notre accompagnement des organisations des pays mêmes. Ces organisations, ce sont quoi ? Ce sont des organisations de femmes, ce sont des coopératives, ce sont des mouvements paysans, ce sont des syndicats, ce sont des ONG locales qui, elles, mettent en œuvre des projets de développement qui répondent aux besoins des populations les plus démunies.
Donc des représentants de ces partenaires seront là pendant le carême, ils vont sillonner la France, rencontrer
la France.
Les paroisses, les communautés locales, c'est ça ?
Tout à fait, et puis peut-être même des débats publics bien plus larges que la communauté paroissiale.
Je pense qu'on pourra aussi les entendre sur RCF, sur les ondes des radios locales et du réseau national. Alors, le CCFD Terre Solidaire, ça s'appelle le CCFD Terre Solidaire depuis combien de temps maintenant ?
Depuis 2008.
Depuis 2008, vous l'avez dit, à sa naissance, ça s'appelait le Comité catholique contre la faim.
Oui.
Comment on est passé de l'un à l'autre ?
Alors, de fait, le changement de nom dit aussi une certaine évolution. Hein. Comité catholique contre la faim, nous sommes nés pour justement cette collecte auprès des communautés chrétiennes pour permettre de lutter contre la faim dans les pays dits du tiers-monde à l'époque. Comité catholique contre la faim. par la réflexion et l'accompagnement, en particulier du père Lebret, qui d'ailleurs est l'un des inspirateurs de l'encyclique Populorum Progressio, qui est vraiment l'encyclique fondatrice, d'une certaine manière, du travail du CCFD Terre Solidaire. Bon, on a bien perçu qu'on ne lutterait pas contre la faim sans promouvoir le développement, que ça passerait par le développement. Et que donc il fallait s'attaquer aux causes, en fait, de la misère et des injustices, et pas seulement essayer de traiter les conséquences. Ça, c'est les années 65. C'est les années du Concile. Hein. Et là, on est passé donc du Comité catholique contre la faim pour le développement des pays du Sud, et d'une certaine manière, par le développement, pour lutter contre cette faim. Bon, on s'est rendu compte au fur et à mesure des années que CCFD était connu dans les milieux catholiques, mais que dans le grand public, CCFD, ça ne voulait pas dire obligatoirement grand-chose. On nous confondait quelquefois avec la CFDT ou avec d'autres sigles. Et il nous a paru important de mettre un prénom à notre nom pour que le grand public puisse identifier la cause de cette organisation. Comme ATD est devenu ATD Quart-Monde. Quand ATD, on ne sait pas obligatoirement ce que c'est, mais le Quart-Monde, on imagine.
Ce que c'est, ouais.
Alors la Terre solidaire, justement, pour nous, ça veut dire que la Terre est pour tous et que nous devons la construire ensemble. Nous sommes sur le même bateau, hein, et il nous faut donc construire ensemble cette Terre. Population de France et du Nord et population du Sud. Nous sommes interdépendants. Il n'y a qu'une seule terre, qu'une seule planète, et c'est celle-là que nous avons à construire.
Bon, bah, comme ça, quand on vous entend parler du CCFD, on comprend bien pourquoi je vous ai invité ce matin pour parler d'un autre monde. Est-il possible ? Vous avez parlé des pays du Sud, vous avez parlé de la solidarité les uns avec les autres. Je voulais vous parler un peu de notre émission. Régulièrement, on reçoit tous les jours des gens pour parler de choses et d'autres. Et il y a quelques jours, nous recevions quelqu'un que vous devez connaître, qui s'appelle Pierre Rabhi.
Tout à fait. Pierre
Rabhi, c'est un apôtre de la décroissance. C'est quelqu'un qui parle beaucoup de sobriété, de sobriété heureuse. Avec Pierre Rabhi, on est à un échelon individuel où il faut que chacun change son comportement et ne pas attendre que l'État s'en occupe. Aujourd'hui, dans cette émission, je voulais aller un peu plus loin. Et un autre monde est-il possible ? C'est aussi une aventure collective.
C'est aussi une aventure collective. Bon, Pierre Rabhi a créé plusieurs mouvements, dont le mouvement Colibri, donc il y a aussi une aventure collective. Moi, ce qui me semble, c'est que oui, un autre monde est possible. Et pour travailler à cet autre monde possible, il faut travailler à trois niveaux. Il faut d'abord des changements personnels. Ça commence par soi-même. Et donc des choix au niveau de la consommation, des choix au niveau du transport, des choix au niveau de ses placements financiers, etc., etc. Ça demande aussi de construire ce que moi j'appellerais des alternatives, des projets très concrets alternatifs qui montrent que d'autres choses sont possibles. Alors, par exemple, les mouvements AMAP en France qui permet de rapprocher le consommateur avec le producteur agricole. Par exemple, les cigales qui permettent de financer des micro-entreprises pour des personnes en difficulté, etc., etc. Ça nous montre que donc d'autres choses sont possibles. Hein, le commerce équitable, etc., etc. Et il faut travailler à un troisième niveau qui est le changement des politiques publiques. Parce que sans changement de politique publique, rien que par le changement personnel, on n'arrivera pas à faire des ruptures de seuils qui sont nécessaires pour vraiment un monde plus équitable et plus soutenable aussi.
Et donc avec ce changement des politiques publiques, on rejoint votre ancienne casquette de responsable du plaidoyer.
Tout à fait.
Le CCFD ne s'occupe pas uniquement d'aider les plus pauvres à réussir à avancer dans la vie, il essaye aussi de faire que les mentalités changent et que les lois changent.
Tout à fait, que les mentalités changent, et ça c'est la dimension personnelle, et que les lois changent pour plus de justice sociale, plus de prise en considération des populations du Sud. Il est clair que pour les populations des pays du Sud, les choix politiques qu'opère la France ou l'Union européenne, en termes agricoles, en termes financiers, en termes commerciaux, ont beaucoup plus d'impact que l'augmentation de quelques pourcentages de l'aide publique au développement. Nos choix agricoles, par exemple, si on décide de subventionner ou non des produits agricoles qui vont être déversés sur les marchés africains, à Lomé, à Cotonou ou à Dakar, ça aura beaucoup plus d'impact pour les petits agriculteurs et les filières agricoles de ces pays que l'augmentation de l'aide publique dans ces pays-là. Donc nous cherchons à influencer, de fait, les politiques publiques pour une plus grande prise en considération des populations du Sud et une plus grande justice au niveau mondial.
Et est-ce que ça marche ? Parce que quand on regarde ce que fait le CCFD, ce que font d'autres ONG de développement, les projets sur le terrain, on sent que ça change la vie des gens. Mais est-ce que votre action de plaidoyer a des effets ? Est-ce que vous êtes entendu ? Est-ce que vous pouvez dire oui, ça a changé ? Oui.
Alors, est-ce que ça marche ? Oui, le plaidoyer, ça marche. Mais il faut regarder ça sur 10-15 ans.
Hein. C'est long.
C'est long, voilà. Aujourd'hui...
C'est plus long que monter une coopérative agricole, par
tout
exemple.
Tout à fait. Aujourd'hui, 11 pays européens se mettent ensemble pour envisager la mise en place d'une taxe sur les transactions financières. Mmh. Je vous cache pas que quand, il y a 15 ans, on disait ça avec d'autres mouvements, on nous rigolait au nez. Et quand on discutait avec les ministères sur cette question, qu'ils soient de droite ou de gauche d'ailleurs, on nous disait « mais de toute façon, c'est pas possible, c'est infaisable ». Et aujourd'hui, on envisage de le mettre en place. On l'a mis en place en France. On est en train de le mettre en place au niveau européen avec 11 pays qui prennent le leadership pour faire avancer cette question.
C'est la crise qui a donné raison au CCFD ?
Je pense que pour une part, la crise a montré que ce que l'on disait en termes de régulation des acteurs financiers, en termes de mise en place d'une taxe pour les transactions financières, etc., etc., en termes de lutte contre les paradis fiscaux, a mis en évidence que, de fait, ces revendications étaient totalement légitimes, non seulement légitimes, mais nécessaires. Alors, est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche ? Ben oui, ça marche. Si on regarde, par exemple, l'impact de la campagne pour l'annulation de la dette des pays les plus pauvres. Mmh. Bon. De fait, il y a eu des allègements de dette qui ont libéré des sommes considérables. En Ouganda, par exemple, ça a permis à ce que l'école primaire redevienne gratuite, alors qu'elle était devenue payante. Mmh. Je vais vous dire une petite anecdote. Au Bénin, je suis allé au Bénin en juillet, et j'ai eu au téléphone quelqu'un que j'avais connu au Bénin il y a 25 ans. Cette personne était extrêmement pauvre. Elle avait aucune pièce dans ses poches et ne vivait que parce que son oncle et sa tante le faisaient manger.
Il y a 25 ans.
Exactement. Et donc, depuis, il est devenu un permanent d'église. Et je lui expliquais ce que je faisais. Je lui expliquais que j'avais travaillé justement pour l'annulation de la dette des pays pauvres, puisque j'étais moi-même le coordinateur en France de cette campagne qui, au niveau mondial, s'appelait Jubilé 2000. Et il me disait « Bernard, mais tu peux pas savoir comment ça a été important pour nous l'allègement de dette du Bénin. »
Parce que... C'est-à-dire que les habitants du Bénin ont ressenti l'allègement de la dette ?
Lui, peut-être. Lui, je dirais pas l'ensemble des habitants du Bénin. Parce que avant, on était obligé d'avoir une vignette sur notre mobylette. Ouais. Et que depuis l'allègement de la dette du Bénin, il n'y a plus eu besoin de payer une vignette. Or, la mobylette, c'est ça qui me permet de me déplacer. C'est clé pour ma vie. Voilà. Les résultats concrets.
Merci Bernard Pinault d'être avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le délégué général du CCFD. On va écouter un peu de musique. Vous pouvez nous appeler, réagir, poser vos questions sur un autre monde est-il possible au 04 72 38 20 23. 04 72 38 20 23. C'est Béatrix qui vous accueille au standard. Le mail, le temps de le dire, @rcf.fr.
Vous écoutez la rediffusion du Temps de le dire, présentée par Stéphanie Gallet. Attention, notre standard est fermé.
I wanna live. pictures of a bird in town.
Alors, c'est encore un mot imprononçable, Laslynx, voilà, c'est un groupe qui s'appelle Killing Switch. C'est une nouveauté sur RCF. Merci d'être à l'écoute du Temps de le dire. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Comme tous les jours, vous avez la parole. Vous nous appelez au 04 72 38 20 23. Vous nous écrivez letemps-de-le-dire@rcf.fr en minuscule et tout attaché. Nous attendons le journaliste Hervé Kempf qui vient de publier au Seuil « Fin de l'Occident, naissance du monde ». On me fait savoir qu'il est dans le métro, alors je ne sais pas trop où dans le métro, c'est grand le métro parisien, c'est pour ça qu'on l'aime, mais voilà, il va arriver. Et puis nous continuons cette émission toujours avec Bernard Pinault, qui est le délégué général du CCFD Terre Solidaire. Un autre monde est-il possible? Alors on parle d'un autre monde parce qu'on nous dit le nôtre est fini. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On va changer de planète, on va aller en prendre une autre
Alors de fait, vous avez raison, la conscience de la finitude de notre planète est quelque chose qui émerge très fortement ces dernières années. Bon, la réalité, elle est là depuis toujours, d'une certaine manière. Mais la conscience dans l'opinion du fait que, bon, un, on n'a qu'une seule planète, et que, deux, elle est finie dans la production de ressources qu'elle peut donner, je pense que ça, c'est nouveau. Hein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelques données. L'empreinte écologique, c'est la surface de la planète nécessaire pour produire les principales ressources, consommer et absorber les déchets. Ça, c'est la définition de l'empreinte écologique. Bien. Si tous les habitants de la planète vivaient au même niveau de consommation que les Européens, il nous faudrait trois planètes. Si tous les habitants de la planète...
Donc finalement, nous, Européens, ça nous arrange bien que certains vivent dans le dénuement et la faim, c'est ça?
Et ben, même, je dirais qu'on en a besoin. Puisqu'il n'y a qu'une seule planète. Si tout le monde vivait au niveau de consommation des Américains, il faudrait six planètes. Or, nous n'avons qu'une planète. Bien. Donc là, il y a donc un problème. Puisque, en ce moment, le niveau est en train d'évoluer, en particulier en Chine, en Inde. On voit des classes moyennes émerger qui commencent à consommer comme les classes moyennes européennes. C'est-à-dire, par exemple, ils mangent beaucoup plus de viande. Bon, ben, on sait très bien que là, on va vers un mur. S'il n'y a pas une diminution de la consommation au niveau mondial et donc une restriction au niveau des pays industrialisés pour que les plus pauvres, eux, puissent quand même se développer, eh bien, on va droit dans le mur. Alors, autre élément, la raréfaction des ressources pétrolières. Je pense que c'est ça qui fait bouger les gens, c'est-à-dire l'augmentation du prix de l'essence. Parce que, justement, on n'a pas encore atteint le pic au niveau de la production pétrolière, mais on n'en est pas loin. Ça fait bouger les gens. Hein.
On va donner la parole, c'est le temps de le dire, les auditeurs ont la parole. Et il y a Jeanne qui est dans l'Indre et qui nous appelle. Bonjour Jeanne.
Oui, bonjour.
Allez-y, nous vous écoutons.
Voilà, moi j'avais trois questions, je vais vous les redonner. Je demandais en quoi les personnes qui sont ou qui vont dans la mouvance de Pierre Rabhi ou de Colibri ne sont pas censées adopter un niveau plus vaste, hein, celui que vous proposez. Ma deuxième question, c'est y a-t-il dans le non-confessionnel des équivalents du CCFD ou quelque chose qui approche? Et est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir justement des échanges entre des responsables du CCFD et des responsables de mouvements équivalents, mais non confessionnels, de même qu'il y a le Secours catholique, le Secours populaire, etc. Voilà.
Merci beaucoup, Jeanne.
Ça permettrait à peut-être un certain nombre de personnes qui n'ont pas envie de faire quelque chose de catho, d'échanger avec des cathos.
Tout à fait, Jeanne. Merci beaucoup pour votre message. On va peut-être préciser ce que j'ai dit tout à l'heure sur Pierre Rabhi. Pierre Rabhi, il appelle à une insurrection des consciences. Il dit il ne faut pas attendre que les gouvernements changent pour changer de vie, de monde, et il faut se prendre en main. Et il intervient assez peu, même si les colibris, effectivement, changent beaucoup de choses, au niveau du plaidoyer et au niveau de l'influence sur les gouvernements et la question publique. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est incompatible. Au contraire, on a dit qu'il y avait bien plusieurs niveaux d'intervention. Après, sur le travail du CCFD, en lien avec d'autres ONG, le CCFD, c'est un organisme catholique, est-ce qu'il y a d'autres associations, d'autres ONG qui font un peu le même boulot? Vous, est-ce que vous bossez ensemble?
Alors, oui, il y a d'autres ONG non confessionnelles qui existent en France. Nous sommes rassemblés au sein d'un collectif qui s'appelle Coordination Sud, qui veut dire Solidarité, Urgence, Développement. Là, il y a les 130 ONG françaises les plus importantes, qu'elles soient des ONG d'urgence ou des ONG de développement ou des ONG d'envoi de volontaires dans les pays du Sud.
C'est important à souligner parce que quand on ne connaît pas, on a l'impression que chacun travaille dans sa petite chapelle, s'occupe de ses bons pauvres, alors qu'il y a, il y a quand même quelque chose, il y a une coordination, il y a un travail de réflexion.
Alors, il y a une coordination et c'est même l'inverse. En France, il y a énormément de collectifs et de plateformes dans lesquels on retrouve des organisations confessionnelles et des organisations non confessionnelles. On se retrouve dans des plateformes paradis fiscaux, dans des plateformes sur la sécurité alimentaire, dans des plateformes pour la responsabilité sociale des entreprises. Dans ces plateformes peuvent être des plateformes d'ONG ou des plateformes où on se retrouve avec des syndicats, avec des mouvements paysans. En France, il y a énormément de collectifs qui se sont structurés pour défendre des causes. Donc oui, madame, nous travaillons ensemble et nous essayons justement de faire pression ensemble parce que on se rend bien compte que pour arriver à faire pression sur les pouvoirs publics, il faut être ensemble. C'est généralement des collectifs qui portent des revendications de changement de loi, de propositions, d'inflexion de politique publique. C'est généralement porté ensemble parce que c'est ensemble que l'on fait poids vis-à-vis des pouvoirs publics.
Autre auditeur en ligne, c'est Jean-Jacques qui nous appelle depuis Tours. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour.
Allez-y, nous vous écoutons.
Oui, bon, pour aller un peu dans le sens de ce qui a déjà été un petit peu dit, mais un autre monde est-il possible? De toute façon, si on change pas le monde, le monde s'affirmera à nous d'une manière ou d'une autre, parce qu'on ne peut pas continuer comme on continue actuellement. Avec le mythe de cette croissance infinie, on s'aperçoit que c'est pas possible. Donc il y a des décisions à prendre au niveau écologique qui s'imposent. Il faut passer par la transition écologique, la transition énergétique, ça tout le monde le sait. Mais après, les décisions ne sont pas toujours prises par les politiques. Et je pense qu'ensuite, si on prend des décisions, on se heurte après aux groupes, aux multinationales qui, elles, leur principe, c'est aussi de faire des profits, ce n'est pas d'agir dans l'intérêt collectif. Donc c'est très compliqué, mais bon, je crois qu'il faut persévérer.
Merci Jean-Jacques pour votre intervention. Peut-être qu'on peut revenir sur le mythe de la croissance, et c'est vrai qu'on en revient un petit peu sur ce mythe de la croissance.
Alors, on en revient parce que l'auditeur a raison. De toute façon, maintenant, les chiffres montrent que c'est pas possible. Si on continue comme ça, au niveau donc de la consommation, on a bien vu que c'est pas possible puisqu'on n'a qu'une planète. Et puis, au niveau des dérèglements climatiques, on sait très bien que si on n'arrive pas à réduire seulement de 2 degrés dans les années qui viennent, dans les dizaines d'années qui viennent, c'est-à-dire qu'on passe à une augmentation de la température au-delà de 2 degrés, alors là, va y avoir des dérèglements que l'on ne pourra peut-être plus contrôler. Et c'est évidemment encore les pays les plus pauvres qui vont trinquer, en particulier les petites îles du Pacifique, le Bangladesh, etc., etc. Donc, de toute façon...
Qui vont trinquer, qui trinquent déjà.
Et qui trinquent déjà. L'auditeur a raison. Les scientifiques nous montrent que on va droit dans le mur s'il n'y a pas des gros changements politiques qui s'opèrent. Alors, le problème, c'est comment opérer ces grands changements politiques, parce que globalement, quand même, les hommes politiques sont dans du court-termisme, un mandat, deux mandats. Or, là, c'est des décisions pour dans 50 ans, dans 100 ans. C'est ça qui est très compliqué. Donc, sans pression de l'opinion publique, ça ne se passera pas. Il faut bien avoir conscience que les grandes avancées au niveau international, que ça soit la mise en place de la Cour pénale internationale, que ça soit l'arrêt des mines antipersonnelles, toutes les grandes avancées internationales se sont faites parce qu'il y a eu une pression de l'opinion publique sur leurs gouvernants qui ont été obligés de prendre des décisions parce que, justement, ils sont obligés d'écouter leur opinion publique puisque cette opinion publique, elle vote, elle, après.
Jean-Jacques nous disait il faut défendre l'intérêt collectif et il y a des acteurs qui s'opposent à l'intérêt collectif parce qu'ils défendent avant tout leur intérêt particulier. Ce sont les grandes multinationales. C'est pas un peu radical comme avis, ça ?
Alors, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que si on prend, par exemple, sur une politique de développement, c'est vrai qu'on dit de plus en plus dans les enceintes internationales que c'est par l'investissement des entreprises que se fera le développement des pays du Sud. C'est maintenant le grand leitmotiv. Bon, ça peut être vrai.
Parce vous y croyez ? Vous avez l'air sceptique.
Eh bien, c'est-à-dire que ça peut être vrai ou ça peut ne pas être vrai. C'est-à-dire qu'une multinationale qui arrive dans un pays du Sud peut très bien être source de développement parce qu'elle crée du travail, parce qu'elle crée de la richesse, ou bien elle peut être un vecteur de frein du développement. Ça dépend de ce qu'elle fait.
Comment est-ce qu'elle peut être un vecteur de frein ? Parce qu'elle va exploiter la terre ?
Parce qu'elle va exploiter la terre, elle va exploiter les minerais, parce qu'elle ne va payer aucun impôt.
Oui, elle va alimenter la corruption.
Voilà. Parce qu'elle peut alimenter la corruption, alimenter des circuits d'armes, etc. Ça dépend de ce qu'elle fait. C'est pour ça que l'un des revendications de beaucoup d'ONG, dont le CCFD Terre Solidaire, c'est la transparence, c'est-à-dire que l'on puisse savoir ce que font ces multinationales dans des pays du Sud, combien elles ont d'employés, ce qu'elles gagnent, ce qu'elles payent comme impôt ou ne payent pas comme impôt, etc. etc.
Est-ce que ça avance, ça, cette notion de la transparence ?
Alors, cette notion est en train d'être travaillée à l'heure actuelle, en particulier au niveau des multinationales d'extraction.
Hein, de tout ce qui est pétrole.
Extraction pétrole, mais ça peut être mine, argent, or, etc. etc. Bon. Les Américains ont mis en place une loi qui s'appelle la loi Dodd-Frank, qui oblige toute multinationale cotée à Wall Street de déclarer en toute transparence ce qu'elle fait dans le pays où elle fait de l'extraction minière. République démocratique du Congo, etc. Donc ils sont obligés de déclarer ce qu'ils font.
Et là, les États-Unis sont modèles.
Et là, les États-Unis ont été en pointe sur cette question. Et donc on a, nous, acteurs de la société civile, repris cette loi Dodd-Frank pour pousser à ce qu'au niveau de l'Union européenne, on avance dans ce sens, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc il y a des discussions au niveau du Parlement et au niveau de la Commission pour arriver à mettre en place une loi qui obligerait les entreprises, en particulier européennes, d'extraction minière dans les pays du Sud, à déclarer ce qu'elles font exactement dans ces pays.
Nous venons d'être rejoints, ça nous fait très plaisir, par Hervé Kempf. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Je crois que vous aussi, c'est un petit peu difficile la santé en ce moment. On est tous un peu fragilisés. Vous travaillez depuis longtemps, vous êtes journaliste, hein, vous écrivez au Monde en particulier, mais dans d'autres vues. Vous êtes à l'origine d'un blog, d'un site même, c'est un site passionnant qui s'appelle Reporter, où là on a toutes les problématiques dans l'environnement qui sont développés avec la parole à beaucoup d'acteurs du développement. Vous avez écrit de nombreux livres. Le dernier s'appelle « Fin de l'Occident, naissance du monde ». Vous remontez à loin, hein, pour expliquer un peu ce qui se passe. Et la course effrénée à la croissance, c'est un peu une course en tête. Hein. On a un peu l'impression de ressembler à un canard de l'Occident. Vous repartez au néolithique. On y reviendra peut-être à cette idée du néolithique et vous appelez à l'avenue d'une ère biolithique. Mais vous parlez aussi des années 60, et ça m'a interrogé. Vous parlez de cette première fois où les terriens ont vu les photos de la Terre, vues de l'espace. Ça vous est venu comment, cette idée ? Et vous avez dit, à partir de ce moment-là, on a vu la Terre, on s'est rendu compte qu'elle était belle, et en plus, qu'elle était fragile.
Ça m'est venu parce que c'est un classique de la pensée écologique. Cette idée que c'est pas moi qui l'ai inventée.
C'est vrai, c'est vrai.
On représente toujours la Terre, ce moment extraordinaire où effectivement les terriens, comme vous avez dit, ont vu la Terre. Je pense que c'était aussi un souvenir de gosse, puisque moi dans les années 60, J'étais un tout petit gamin, effectivement, dans les revues. Oui, c'était la conquête de la Lune. On voyait les cosmonautes qui tournaient autour de la Terre. Il y avait des photos dans Paris Match, qui à l'époque était un grand journal, ou ce genre de choses, quoi. Et donc, ça a frappé sans doute l'imaginaire du gamin que j'étais. Mais je crois aussi beaucoup, pour une raison très simple, c'est que c'était avant, la Terre était plane pour chacun d'entre nous, dans la vie quotidienne, elle est plane. Mmh. On sait, parce qu'on a été à l'école, etc., qu'elle est ronde, qu'il y a des milliards d'étoiles, que le ciel est infini, qu'il y a des univers parallèles, qu'il y a toutes sortes de choses, mais l'expérience sensible et quotidienne, c'est une Terre plane, qui est à la fois immense. Et là, justement, cette image qui a été... effectivement, elle est datée. C'est-à-dire qu'il y a un moment, une expédition américaine, états-unienne, qui a fait cette première image. Et après, il y en a eu beaucoup d'autres.
Alors moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est que, à ce moment-là, moment où on découvre ces premières photos, c'est aussi dans ces années 60 que le CCFD Terre Solidaire est créé. Alors à l'époque, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas le CCFD. Et le logo du CCFD, c'est une terre entre nos mains. Il y a vraiment cette notion de fragilité, de care aujourd'hui, de prendre soin de la terre.
Je pense que c'est ça. Alors, je pense que ça doit être lié, de fait, à cette image qui commence à apparaître. Dans les médias, etc. Alors, de fait, le logo du CCFD, c'est deux mains qui prennent soin d'une Terre, et il y a donc une seule planète, il y a cette notion d'une seule planète, il y a cette notion de la Terre est à tous aussi, hein. Et puis, d'une certaine manière, c'est l'Eucharistie, aussi pour nous, cette image. Alors, est-ce que, déjà, de ce moment-là, on a conscience de la finitude de cette planète? Moi, je suis pas sûr. Je sais pas ce qu'en pense Hervé, mais je pense que la conscience dans l'opinion publique, de fait, cette planète, elle est finie. C'est-à-dire que les ressources, il y a un moment où ça va s'arrêter. C'est quand même beaucoup plus récent.
Avec M.
Ouais, moi, je sais pas très bien. Ce qui me semble, c'est pas tellement, pour revenir un peu en arrière, je sais pas, c'est une image de la fragilité, mais plutôt de la beauté. Parce que cette terre, elle est bleue, avec des ombres de différentes couleurs, mais elle est rendue comme bleue dans un univers qui est à la fois très sombre, c'est le noir de la nuit, et en même temps, ces images sont toujours très lumineuses. Et moi, j'ai l'impression que... Enfin, je mélange peut-être ce que moi je pense et ce qu'on peut penser que pense...
Non, mais c'est Hervé Kempf qu'on a invité, donc ça ne nous dérange pas. Hein.
C'est que c'est cette idée que la Terre est belle. Parce qu'on la sait, une fois de plus, dans notre expérience quotidienne, on la sait belle parce qu'on marche, on voit la mer, on voit la terre, on voit la montagne, on voit la campagne. Enfin, je veux dire, il y a toujours eu quand même cette dimension, malgré la dureté de l'existence, pendant la plus grande partie de pour tous nos ancêtres, il y a quand même eu toujours, je pense, cette relation de beauté au monde. Et là, cette beauté prenait une autre dimension, c'est-à-dire que c'était la Terre dans son ensemble. Après... oui, la finitude, mais ça dit peut-être autre chose et qui renvoie sans doute au CCFD, aussi à l'idée de la naissance du monde, c'est que à partir du moment où la Terre a été vue, a été objectivée de manière sensible par cette image, on prenait conscience que tous les peuples de la Terre étaient le même. Alors qu'avant, vous passiez la montagne, même en Savoie ou je ne sais pas où, au Massif Central ou à Katmandou, vous passiez la montagne et ceux de l'autre côté de la vallée, c'était des étrangers. C'était pas comme chez nous. Enfin, je prononce pas bien, mais on prononce comme on veut, à vrai dire. Mais il y avait ça. Donc toute l'humanité, les sociétés humaines, elles ont vécu depuis que les humains sont humains, en clans, en tribus, et opposés les uns aux autres. Et là, à partir du moment où il y a cette image qui est au-delà du symbole, puisqu'elle existe réellement, elle représente une réalité, ça a été le démarrage de la conscience que les sociétés humaines n'en formaient finalement qu'une. Et elles n'en forment qu'une, notamment parce que nous sommes confronté à cette finitude, qui n'est pas seulement une finitude, parce qu'après on va pouvoir discuter de la finitude, c'est peut-être pas aussi fini qu'on veut bien le penser, mais qu'en tout cas il y a un problème clair de ressources limitées qui doivent être partagées par tous.
C'est le temps de le dire, il faut qu'on partage le temps d'antenne avec les auditeurs. Michel est avec nous depuis la Saône-et-Loire. Bonjour Michel.
Oui, bonjour.
Allez-y, nous vous écoutons.
Alors je réponds oui, un autre monde est possible. Mais surtout pas celui que le monde occidental veut imposer au reste de la planète, depuis bien longtemps. Nous détruisons les traditions, les cultures, les religions, par notre pseudo-instruction. et il faut que cela s'arrête. Nous sommes des impérialistes. Les gens ne sont pas forcément plus heureux parce que nous leur avons divulgué, nous les avons forcés à adopter nos coutumes, nos objectifs, nos consommations, etc. Et ils ne sont pas plus heureux et ils souffrent encore plus de la faim qu'avant. La meilleure preuve, c'est que les agriculteurs qui devraient être autonomes sont les premiers à souffrir de la faim aujourd'hui dans le monde. Deuxième point, si vraiment nous voulons changer le monde, il faut arrêter les réunions, les conférences, les blablas et appliquer ce qui a toujours fonctionné dans toute l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire marcher dans la rue, aller avec le peuple les rejoindre, que ce soit le mouvement ouvrier, que ce soit la marche des gueux de Rajagopal en Inde, sur Delhi ou sur Calcutta, je ne me souviens plus. Il faut marcher, il faut sortir de chez soi. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel, pour votre appel à la marche. Ça me rappelle une belle émission qu'on avait fait il y a quelques années sur la marche.
Mais on peut dire tout de suite qu'il n'y a pas besoin d'aller en Inde. Il y a une marche qui arrive, qui est partie, je crois, de Nice, de marcheurs, qui arrive ce week-end à Nantes en soutien à Notre-Dame-des-Landes. Je ne sais pas exactement où ils sont. Ils sont en Bretagne, mais voilà. Monsieur a tout à fait raison. On peut marcher. On peut marcher activement. Et en ce moment même, en France, il y a une marche. Donc suivez du côté de Nantes, Notre-Dame-des-Landes, il y a une marche qui est partie de Nice.
Sur la responsabilité de l'Occident dans la crise actuelle et même le malheur des gens du Sud, qu'est-ce que vous avez envie de répondre ? Est-ce qu'il faut qu'on se batte notre coulpe comme ça ?
Non, moi je ne suis pas du tout dans cette idée. J'essaye de raisonner en historien, c'est-à-dire en comprenant les trajectoires historiques dans lesquelles nous sommes, et c'est tout le propos de Fin de l'Occident, Naissance du Monde, de tenter d'expliquer qu'il y a eu un moment historique tout à fait extraordinaire au moment de la révolution industrielle, qui a fait que les pays occidentaux, d'abord européens, et puis ensuite états-uniens, et puis après le Japon, etc., ont su se différencier très largement du reste du monde, parce que jusqu'à cette époque, et c'est pour ça que je pars loin dans le livre depuis avant le néolithique, en gros, tous les indices des historiens et des archéologues nous disent, des paléontologues nous disent qu'en moyenne, les gens vivaient à peu près avec le même niveau de consommation matérielle et le même niveau de consommation
énergétique. Donc c'était l'égalité.
C'était une forme d'égalité. Alors, il a pu y avoir, notamment à partir du néolithique, vraisemblablement des très grandes inégalités au sein des sociétés, mais globalement, en moyenne, tous les humains, à travers la Terre, sur la Terre, vivaient en gros avec le même niveau de consommation matérielle. Et pourquoi ? Bah, schématiquement, parce qu'ils étaient limités précisément par la quantité d'énergie disponible, qui était extrêmement restreinte. C'était le bois, c'était un peu de vent, c'était un peu d'eau, c'était les animaux. Mais voilà,
on avait... Donc révolution industrielle, on découvre l'énergie...
Révolution industrielle, qui est alors à la fois liée, je vais rapidement, au charbon anglais et à la possibilité pour l'Angleterre et ensuite les pays européens d'utiliser les espaces agricoles et les ressources de l'Amérique du Nord, et qui ont permis d'enclencher ce cercle énergie, machine, développement, richesse, suprématie sur les autres, capacité à précisément développer des forces militaires et des techniques qui permettent d'assurer la suprématie sur le reste du monde. Et surtout, et c'est là-dessus que je m'attache, sur ce point que je m'attache à souligner, un changement profond, c'est-à-dire que les habitants des pays occidentaux vont finir par avoir un niveau de consommation matérielle et un niveau de consommation énergétique très supérieur à celui des autres habitants de la Terre, jusqu'à 150 fois ou 100 fois. Et ça, c'est exceptionnel. Mais le deuxième mouvement, c'est que cette parenthèse, elle est en train de se refermer. C'est-à-dire que progressivement, nous entrons dans une grande convergence où on va retrouver, on est en train de retrouver la situation commune et sans doute normale de l'humanité, qui est qu'en moyenne, tous les habitants de la planète vivent avec le même niveau de consommation matérielle et le même niveau de consommation énergétique. Donc déjà, ça c'est, pour répondre à notre auditeur, on est déjà dans ce mouvement. Mais il y a une autre chose qui est importante, c'est que maintenant, on est 7 milliards d'humains, de frères et de sœurs. On est confronté, en revanche, à cette finitude, est-ce que c'est le bon mot, mais en tout cas à cette limite des ressources matérielles, des ressources énergétiques, aussi des capacités de la biosphère, il ne faut jamais oublier les capacités de la biosphère à absorber, absorber l'effet de l'activité humaine. Voilà. Et donc, on ne peut pas faire cette convergence au niveau matériel énergétique des Occidentaux à l'heure actuelle. Ça veut dire quoi pour nous Occidentaux, et je conclue là-dessus, qu'il faut accepter l'idée que nous allons avoir un niveau moyen mondial inférieur au niveau actuel, et que donc, pour nous Occidentaux, il faut accepter une baisse de la consommation matérielle et une baisse de la consommation énergétique.
Alors, on reviendra sur les modalités de cette baisse, parce que à quoi devons-nous renoncer ? Ça m'intéresse. Et puis, je sens qu'il y a des auditeurs qui piaffent. Un mot, peut-être, sur la responsabilité de l'Occident, Bernard Pinault ?
Alors, après la phase industrialisation, il y a quand même là une responsabilité de l'Occident, quand même. Il y a une responsabilité des pays les plus industrialisés qui ont quand même essayé de plaquer des schémas de développement sur les pays du Sud, par transfert, je dirais, de technologie. Ça, quand même, on peut le reconnaître. Mais je suis d'accord avec Empf. Les données sont en train de bouger, quand même. Les données sont en train de bouger au niveau de la gouvernance mondiale. La Chine, les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, sont en train de prendre un poids dans la gouvernance mondiale qui bouscule l'ensemble. Hein, et les classes moyennes dont on parlait tout à l'heure, chinoises et indiennes, sont en train d'émerger, souhaitent être des consommateurs comme les Occidentaux. Donc tout ça est en train de bouger. De fait, il s'opère une convergence. Je suis d'accord avec ça, même si pour quelqu'un qui vit au Niger ou quelqu'un qui vit en Équateur, il n'est pas évident que lui voit très bien de quelle convergence nous sommes en train de parler, évidemment. Mais néanmoins, cette donne est en train de s'enclencher.
Ibrahim est avec nous depuis Lyon au 04 72 38 20 23. Bonjour Ibrahim.
Oui, bonjour. Alors, je me permets juste de revenir sur les propos de votre premier invité, où qui dit c'est des propos à mon sens qui sont à la mode en ce moment, qu'on entend partout, sous l'effigie du développement durable. Alors, ma question, enfin j'en ai deux. Ma première question, c'est comment on prendre conscience sur ce qui va arriver dans 30 ans, 50 ans, alors qu'on n'arrive même pas à changer ce qui est urgent, c'est-à-dire la pauvreté dans le monde. Et ma deuxième question, c'est comment on ose dire, par exemple, aux pays du pauvre de ne pas suivre notre modèle. C'est un modèle polluant, mais on oublie aussi de dire que c'est un modèle quand même confortable. Alors qu'on demande aux pauvres de changer de voie et d'inventer un autre mode de développement avec leurs moyens qui ne l'ont pas finalement. Voilà, je me demande juste si c'est pas une façon de cacher des problèmes beaucoup plus urgents, beaucoup plus importants que ça, quoi. Voilà.
Merci beaucoup Ibrahim pour vos deux questions tout à fait pertinentes. Hein. Comment est-ce que parler de ce qui va se passer dans 50 ans, dans un siècle, c'est pas une façon d'éluder la pauvreté actuelle aujourd'hui? Et puis comment dire aux gens, vous pourrez pas avoir notre modèle, mais eux ils ont quand même envie du bien-être dans lequel nous vivons. Alors Bernard Pinault et puis après Hervé Kempf, parce que je sais que ça l'intéresse également beaucoup.
Alors, sur les deux points, évidemment, il faut travailler les deux en même temps.
Ouais. Hein. Il n'y a pas de contradiction.
Il n'y a pas de contradiction. C'est-à-dire, si on veut vraiment enclencher une transition énergétique et écologique, il faut aussi qu'elle soit sociale. Il faut qu'elle soit juste socialement. C'est pour ça que dans le monde des ONG à l'heure actuelle, l'expression qui prévaut, c'est transition écologique et sociale. Et il ne faut pas oublier ce volet-là. Alors, comment faire avancer cette vision à 50 ans ? Ben, c'est par, je dirais, l'information. RCF est un vecteur, les médias, des conférences, des débats. Donc, c'est faire prendre conscience à une opinion publique des enjeux qui sont devant nous. Hein. Mais il s'agit aussi de traiter la pauvreté et les inégalités. Ça, je suis entièrement d'accord. Alors, bien évidemment, ce nécessaire diminution de la consommation, il s'adresse d'abord à nous, les pays les plus industrialisés. Et selon moi, il est hors de question que les plus pauvres n'aient pas, eux, accès à une croissance de leur développement et de leur capacité de consommation. C'est pour ça que si dans le mot décroissance on englobe tout le monde, ce n'est pas mon point de vue. Cette décroissance, elle est d'abord pour nous, les pays les plus riches, et maintenant les pays émergents, de façon à ce que les populations les plus pauvres puissent, elles, avoir accès à un meilleur être.
Et avec Emf ?
Sur la première question d'Ibrahim, on on parle pas de 50 ans, on parle de maintenant. Moi, je pars de la question écologique, hein, c'est mon point d'entrée, et puis j'allais dire, je pense que c'est le point d'entrée de la société humaine à l'heure actuelle. Ah, quelqu'un entre.
Il y a Dominique Lang qui arrive dans le studio, on lui fait une petite place. Donc on parle d'aujourd'hui, on parle pas dans 50 ans?
Non, c'est la rapidité de la dégradation écologique en matière climatique et en matière de biodiversité et puis en matière de dégradation de l'ensemble des écosystèmes fait qu'on ne parle pas là de... On est maintenant en 2013, de 2063. On parle des années 20, c'est-à-dire que si d'ici une dizaine d'années, moins de 10 ans, j'allais dire, on n'a pas vraiment changé la trajectoire, la discussion sur ce qui se passera dans 50 ans est superfétatoire. Bon, ça, c'est le premier point. Donc, on est dans l'urgence.
Et l'aspiration au bien-être.
Et la deuxième, qui est tout à fait importante de Ibrahim, qui disait en gros, il s'agit de dire au monde, aux pauvres du monde, des autres non-pays occidentaux, limitez-vous. Non. Moi, le débat, il est très clair. Je dis baisse de la consommation matérielle et baisse de la consommation énergétique pour les habitants des pays occidentaux. Il ne s'agit pas de faire la leçon aux Chinois, aux Guatémaltèques, aux Nigériens. Et c'est là qu'on rentre dans la responsabilité. Moi, là, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que la responsabilité pour ce qu'ont fait les Occidentaux, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères en 1850, c'est intéressant, mais c'est un débat d'historien. Mais la question, c'est notre responsabilité aujourd'hui. En tant qu'habitante de la France, de l'Europe, notre responsabilité, c'est d'engager ce mouvement vers une baisse de la consommation matérielle et une baisse de la consommation d'énergie. Après, comme les pays occidentaux restent encore ceux qui projettent un modèle culturel extrêmement fort, il y aura évidemment un effet sur le reste du monde. Et donc, si nous changeons notre trajectoire et allons vers cette sobriété, eh bien, beaucoup de pays du monde l'entendront. D'autant plus, et là c'est un point tout à fait essentiel, et j'insiste, Bernard Pinault l'a dit, c'est que cette transition, elle doit se faire dans la réduction très forte des inégalités. Il ne s'agit pas de s'appauvrir, et puis il y a toujours des propriétaires de Mercedes et des gens qui ont en avion et qui ont je ne sais pas combien d'argent chaque année, plus de 500 000 euros, comme Depardieu, Pinault et tous ces gens-là. C'est qu'on réduit les inégalités à l'intérieur de nos pays. La condition pour qu'on aille vers une réduction des inégalités à l'échelle internationale, et elle est tout à fait indispensable, c'est que nous, on parvienne à réduire les inégalités dans notre propre pays. Donc, il y a un enjeu politique clair qu'il faut bien poser.
On va écouter un petit peu de musique et après, nous donnons la parole aux auditeurs, puisque c'est quand même la règle de cette émission. Je sais qu'il y a deux auditeurs à Bruxelles qui attendent, Paul et André. On leur ouvre le micro dans quelques instants.
Vous écoutez la rediffusion du Temps de le dire, présentée par Stéphanie Gallet. Attention, notre standard est fermé.
Oh, so, tira minha roupa. As nuvens beijam minha boca. O vento me abraça e o calor me amassa. O meu olhar foge pelas ruas, buscando a sombra dos meus amores lindos. As minhas belas ilusões. Faça os amores me levem pra outro lugar, bem longe daqui. Meus falsos amores. Me levem, 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 me levem. O noite vem. Me deixe bebada, enrolada nos teus doces encantos, sonhando preguiçosamente na vida.
consumindo meus últimos desejos. Consumindo meus últimos desejos.
Mister Mao, voilà, c'est une nouveauté sur RCF. Merci d'être fidèle à cette émission. Le temps de le dire, un autre monde est-il possible ? Avec trois invités ce matin, l'émission est au complet, ça fait plaisir. Bernard Pinault qui est là depuis le début, voilà. Délégué général du CCFD, il y a un site internet pour le CCFD, Terre Solidaire. Vous trouvez toutes les informations, les campagnes, les informations pour le carême. Hervé Kempf, journaliste, essayiste, et ce livre qui vient de sortir, qui suit les autres, et ça s'appelle Fin de l'Occident, Naissance du Monde, c'est publié au Seuil. Hervé Kempf est aussi l'animateur d'un site reporter, une mine d'informations. Et puis, Dominique Lang, ami de cette émission, le temps de le dire, prêtre assomptionniste, journaliste à pèlerin, passionné par toutes les affaires d'environnement, qui nous rejoint maintenant et nous le remercions. C'est le temps de le dire, les auditeurs ont la parole. 04 72 38 20 23, ils patientent. Depuis un petit moment, c'est Paul qui est à Bruxelles. Bonjour Paul.
Oui, bonjour, ici Paul Gourdine de Bruxelles. Je téléphone un peu parce que c'est un problème qui est très important pour notre monde. On ne peut pas séparer le spirituel, on arrive bientôt dans le carême, et le matériel. Ici en Belgique, on parle beaucoup qu'on refuse de supprimer l'index. Mais il y a des problèmes qui sont là. Ceux qui ont des gros salaires, avec l'index qui augmente, ils peuvent partir presque en vacances. Mais alors, il y a aussi les pauvres qu'il faut résoudre. D'autre part, il y a aussi les problèmes des pays en voie de développement où il y a certains problèmes qui existent. On arrive maintenant dans la période de carême. Et je pense beaucoup à tous ces missionnaires, ces prêtres qu'on va presque chercher dans les pays étrangers qui sont déjà pauvres, qui viennent chez nous, qui ont des salaires, parfois en Belgique c'est le cas, et alors ils peuvent alors avec ça vivre d'une autre façon, quoique leur place, même des prêtres, est dans leur pays, pour aller, je dirais, former d'autres personnes qui conscientiseraient, je dirais, leur population, à la méthode parfois du cardinal Cardaigne qui a su créer la JOC pour créer justement un mouvement en partant de la base pour élever les gens, non pas de rester dans leur misère.
Ah, Paul, ça a coupé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Dommage. Bon, mais on va quand même essayer de vous répondre puisqu'on a un prêtre avec nous, Dominique Lang, qui est là. Il y a eu beaucoup de prêtres occidentaux qui sont allés dans les pays du Sud. Et c'est vrai que maintenant, on a des paroisses avec des prêtres qui viennent d'Afrique. C'est un échange de...
Un échange de bons procédés, sûrement, mais j'espère qu'il n'y a pas que les prêtres qui peuvent parler des prêtres. Donc, il faut juste rappeler ça. Oui, c'est un mouvement de fond qu'on voit arriver. C'est sûrement une opportunité, effectivement. Il n'est pas du tout sûr aujourd'hui que les prêtres qui viennent travailler quelques années ici ont envie ou ont le temps ou ont les moyens de se former sur ces questions-là. Même de manière globale, nos prêtres occidentaux à nous n'ont ni le temps ni les moyens et parfois pas beaucoup la curiosité pour se former sur ces questions-là qui sont toujours un peu considérées comme secondaires ou réservées à des spécialistes. Je pense aussi dans l'autre sens. J'ai un ami prêtre qui est parti au Togo, donc un Français qui est au Togo et qui m'envoie régulièrement des messages en me disant « Je suis au fin fond d'une de ces villes du Togo. Je vois les questions de pollution, de traitement de l'eau, de toutes les questions environnementales de base, avec une population démunie qui ne sait pas du tout par où prendre ces choses. Comment avancer ? Comment trouver les lieux, les décisions, les acteurs pour pouvoir mettre en route des bonnes pratiques ?» Et il me semble qu'on est à un moment où assez intéressant parce que, entre autres à cause des outils, les réseaux sociaux, Internet, etc., qui arrivent même jusqu'au fin fond de la brousse à Togo, pas très bien, mais ça arrive, On pourrait accélérer des prises de conscience. On peut accélérer la transmission des outils. On peut accélérer la connaissance d'initiatives qui ont eu lieu un peu partout à travers le monde et qui, du coup, peuvent mettre en route des gens. Et il me semble que ça, c'est vraiment une des choses qui est à notre portée. Il suffirait de se mettre à quelques-uns ensemble, être veilleurs d'initiatives qui se font et de les faire connaître à des gens qui attendent, qui n'ont pas une grande connexion Internet, qui ne peuvent pas surfer toute la journée au fin fond du Togo.
Ils n'ont pas forcément le temps.
Et qui n'ont pas le temps et qui sont, non, c'est pas la priorité. Par contre, on peut leur apporter des outils de formation et de mise en place d'initiatives dont ils n'avaient aucune idée et qui peuvent vraiment être un bon moteur pour eux.
André est avec nous depuis Bruxelles. Bonjour André. Il faut que vous baissiez votre radio, hein, André.
Voilà. Oui, bonjour. Désolé d'attendre un petit peu, là. Allô ?
Allez-y, on vous écoute.
Oui, voilà. Je téléphonais, c'est d'abord pour signaler, parler de l'annulation de la dette, justement, que l'association qui s'occupe de ça, à Bruxelles, mais aussi en France, c'est le comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, CADTM. C'est juste une information documentaire. Sinon, je vais au cœur du débat, là, à propos, parce que, bon, à propos des propositions, moi, j'ai le sentiment que, bon, il faut travailler à la fois pour sortir de la société dans laquelle on est, société capitaliste, travailler sur la résilience et la résistance. La résilience, c'est la capacité de subir, de supporter les chocs, et la résistance, c'est, disons, s'opposer au système tel qu'il est pour construire autre chose, quoi. Donc, je veux dire, à ce niveau-là, je peux citer au niveau de la résilience, l'initiative la plus importante, c'est les initiatives de transition, dans les villes en transition, etc. Bon, ça, c'est quelque chose qui se développe surtout au niveau anglophone, mais aussi ailleurs. Donc, et nouveau de la résistance, moi je pense que l'idée qui a été dit de marcher, disons, de résister, donc même par rapport à ce que le gouvernement français fait, je trouve ça bien timide par rapport à ce qu'ils ont promis avant les élections, les socialistes, quoi. Bon, je pense à la séparation des banques d'affaires et de dépôts. Bon, Pierre Moscovici ne me semble pas avoir été très loin à ce niveau-là. Bon, la seule chose qui me semble aller un peu plus loin, c'est de constituer, là ça me paraît aussi important, de travailler à des statuts de société alternative, enfin pour des sociétés, des entreprises. Bon, comme Benoît Hamon, il a parlé d'un statut de SCOP qui serait plus accessible aux salariés qui travaillent dans l'entreprise, quoi. Donc là, il me semble qu'on avance dans la bonne direction, mais il faudrait, je crois, vraiment faire comme les Tunisiens font en ce moment en France, descendre dans la rue, etc. Et peut-être aussi demander un changement du système politique, parce que bon, il y en a qui vont aussi un peu plus loin à ce niveau-là que le système traditionnel, représentatif, bon, comme Étienne Chouard et même Dominique Bourg, quoi. Voilà.
Merci beaucoup André. Je retiens résilience et résistance. Hervé Kempf, ça vous parle, ce qu'il vient de nous dire ?
Oui, tout à fait. Et il faut reposer la question de l'inégalité, parce que et monsieur de Bruxelles a justement indiqué qu'il y avait un gouvernement socialiste, moi je mets le mot socialiste entre guillemets, qui est en train de tout lâcher. Or, la question, si on veut vraiment avancer dans le sens de ce qu'on a dit précédemment, de réduction des inégalités, elle doit être très claire, c'est reprendre le contrôle sur le marché financier et sur les banques. Et là, de ce point de vue-là, ce qu'est en train de faire le gouvernement de M. Ayrault et de M. Hollande est grave. C'est-à-dire ils sont en train d'abandonner la promesse qui avait été faite de séparer les banques de dépôt et les banques spéculatives. La deuxième chose, ils sont aussi en train d'abandonner le projet qu'on pourrait presque juger timide d'une tranche de 75% d'un taux de 75% d'impôt sur la tranche élevée des revenus. Ils sont en train de céder là-dessus. Donc on est dans un spirale où on n'arrive pas à réduire les inégalités, à imposer une fiscalité différente. Et là, c'est extrêmement grave. Troisième point, il n'y a pas de transition écologique, il n'y a pas de vraie politique écologique. On continue à Notre-Dame-des-Landes, qui est plus qu'un symbole, qui est vraiment représentatif de toute autre chose, parce qu'on pourrait parler d'une autre lutte qui a lieu en ce moment, par exemple dans le Morvan, contre une énorme entreprise industrielle. Donc ceux qui veulent marcher, vous pouvez aussi marcher
dans le Morvan.
Vous pouvez marcher dans le Morvan, à Sardis, dans la Nièvre. Voilà, je crois que, enfin, moi je me permets de rappeler toujours, c'est pas parce que, il y a un problème avec ces gouvernements qui sont en fait dans la main des banques. Et tant qu'on sera assujettis aux banques tant qu'on laissera avoir des gens qui ont des revenus absolument énormes et qui ont tous les pouvoirs dans la société, on ne pourra pas avancer vers la transition dont nous sommes très nombreux à la vouloir.
Bernard Pinault, je vous voyais acquiescer.
Oui, moi je suis absolument d'accord. Enfin, sur le point des inégalités, je pense que ce qui empêche d'une certaine manière des avancées plus fortes, même dans les revendications de l'opinion, c'est on nous dit ben voilà, on est en crise donc on peut pas. Bon, je voudrais juste rappeler que la richesse mondiale a été multipliée par 2 en 10 ans et que la France d'aujourd'hui est 2,5 fois plus riche qu'en 1980. Donc, que je sache, la population n'a pas doublé, elle, en 10 ans. Donc, de fait, ce n'est pas une question de richesse, c'est bien une question de répartition. Et ça, je pense qu'on ne le dit pas assez. Oui, il y a une crise, etc. Mais n'empêche qu'il y a plus de richesse que précédemment. Donc, on est bien face à des problèmes de répartition.
André est avec nous depuis Angers. Bonjour, André.
Oui, bonjour. Moi, ma réflexion, c'était par rapport aux pays qui sont en voie de développement et qui désirent améliorer leur niveau de vie. Il est certain que s'ils prennent exemple sur ce qu'on a fait, nous, dans les pays occidentaux, en utilisant la même manière, on va droit au mur. Mais je pense que on peut très bien créer un autre modèle de consommation. Il ne s'agit pas de ne pas consommer, mais de consommer d'une manière différente. Maintenant, on peut aussi, avec les énergies renouvelables, avoir des systèmes qui permettent de ne pas abîmer notre planète, par exemple. Donc, il y a certainement des solutions. Voilà ce que je voulais dire.
Merci beaucoup André. Puisque vous parlez d'une autre façon de consommer, je voulais vous lire le mail de Sophie qui est arrivé. Elle nous dit « Hier soir, j'ai pris connaissance dans l'émission Silence ça pousse de l'existence d'un mouvement qui s'appelle Incroyable Comestible et qui vient d'une ville du nord de l'Angleterre. Dans cette ville, les habitants ont créé des bacs de partage de nourriture. Dans toute la ville, les familles plantent et cultivent des fruits et légumes qui sont mis à disposition de la population gratuitement. Chacun se sert, le système semble très bien fonctionner et la délinquance a diminué car les liens humains nouveaux se sont créés. La terre nourricière sera le point d'ancrage d'un nouveau mode de relation entre les hommes. L'expérience est en train de se développer dans plusieurs villes et même en France. On repense à planter des arbres fruitiers dans les villes à la place de nos platanes. Dominique Lang, vous connaissiez cette initiative incroyable comestible ?
Oui, on peut voir ça sur YouTube, sur d'autres sites de vidéos. Et effectivement, ce qui me paraît très intéressant, c'est que c'est une initiative de 2-3 femmes qui vivaient dans cette ville qui était très malmenée parce que petite ville ex-industrielle qui avait des taux de chômage très élevés, etc. Et ces femmes, et c'est souvent des femmes d'ailleurs, parce qu'elles ont ce bon sens un peu terrien qui fait qu'on peut repartir des choses fondamentales, on dit il y en a marre de vivre dans ce monde-là. Pourquoi, quand on plante nos jardins, pourquoi on n'utilise pas les espaces qui sont là ? Et elles ont toutes seules, contre l'avis de tous, commencer souvent de nuit et un peu de manière un peu cachée, de manière clandestine, planter partout où elles pouvaient, dans des bacs, dans des zones industrielles, dans des cimetières, près des pompiers, dans les écoles, un peu partout, planter les graines et attendu 2-3 saisons. Et quand ça poussait, une fois que les choses avaient grandi, on commençait à dire aux gens, servez-vous. Voilà. Et c'est là où la révolution s'est faite, c'est que les gens ont compris qu'en fait la gratuité avait une fonction sociale. Et que à partir de ce moment-là, on n'était plus dans des petites maisons concurrentes les unes des autres. On créait du lien social et on enclenchait un phénomène. Et aujourd'hui, effectivement, alors ça n'a pas tout résolu. Il ne faut pas non plus croire à des solutions miracles. Mais ça fait diminuer effectivement la violence de cette cité. Ça fait diminuer les tensions sociales parce que les gens ont compris que c'était aussi un fonctionnement économique que d'être sur cette gratuité-là qui induisait un certain nombre de comportements sociaux.
On est bien à l'échelon local dont parlait Bernard Pinault tout à l'heure en début d'émission. Autre mail arrivé dans cette émission. Jean-Jacques, il est en Touraine. En 1968, le Club de Rome nous a fait prendre conscience que les ressources de la Terre ne sont pas inépuisables. Il est étonnant qu'en 2013, certains se posent encore la question. Et puis, autre mail arrivé, c'est Claire, elle est dans le Rhône. Nous savons tous que les ressources sont limitées et que la consommation à outrance crée de gros problèmes environnementaux. Alors, nous dit-elle, elle est impatiente, pourriez-vous passer à l'essentiel ? Quelles sont les pistes que nous proposent les intellectuels, économistes, etc. pour changer en mieux ? Merci d'y venir rapidement. Alors voilà, messieurs, Hervé Kempf, il y a quand même toute une partie de votre livre qui nous dit qu'il faut revenir à plus de sobriété. Concrètement, ça se passe comment ?
Ben, ça se passe quand même, je reviens, parce que justement beaucoup d'intellectuels et d'économistes ne disent pas ce que nous disons ici, c'est-à-dire beaucoup d'intellectuels et d'économistes sont dans le dogme dominant, appartiennent à l'oligarchie et défendent les intérêts des riches. Donc ben, je vais le répéter, il faut toujours se bagarrer sur cette question de la reprise des contrôles des marchés financiers, la changement de la fiscalité. Donc ça, c'est une bagarre vraiment importante parce que le reste n'est pas possible. Et ce qu'on a commencé à évoquer est l'autre partie de la réponse. C'est que dans le même temps où on réinsiste là-dessus, eh ben, il y a la société bouge partout. Alors moi, je connais surtout la société française. Je suis sûr que c'est pareil en Afrique, en Amérique latine, en Asie, etc. Mais en France ou en Angleterre, on a parlé de ces incroyables comestibles. Il y a une semaine, il y a eu le lancement d'une monnaie, local au Pays Basque autour de Bayonne, il y a des AMAP dans tous les coins, il y a des bagarres dans tous les coins, on développe le covoiturage, enfin, on voit une myriade d'initiatives qui se développent partout. Donc je dirais que c'est marcher sur ses deux jambes. Et c'est ça un petit peu le problème. Souvent, il y a une sorte de fatalité dans la société. On dit, bah oui, le système, on pourra pas le changer, les capitalistes, ils sont là, les riches, ils sont là. Donc, travaillons, cultivons notre jardin. On a raison, il faut cultiver notre jardin, surtout qu'on veut aller, cette sobriété heureuse, espérons qu'elle sera heureuse, doit aller vers un retour du lien social, du lien communautaire, d'utiliser intelligemment les ressources locales. Mais aussi, il faut pas oublier l'autre jambe, qui est le macro, qui est cette bagarre absolument essentielle où on change les logiques politiques et les logiques économiques globales.
Bernard Pinault.
Oui, moi je suis frappé de voir combien il y a de nombreux jeunes adultes, il y a des mouvements de jeunes adultes qui s'engagent dans cette ligne de cette sobriété heureuse, de décroissance. Ils se situent comme objecteurs de croissance, ils refusent d'avoir la télé, covoiturage, réduction de sa consommation de viande, etc. etc. Donc ça, c'est ça la direction, hein. Et je pense que la nouvelle génération nous la montre que c'est possible et s'engage dedans. Nous, au niveau du CCF des Terres Solidaires, on essaie de mettre en lien toutes ces expériences locales avec des expériences locales des pays du Sud. Parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a des mouvements dans ce sens-là. Alors, en Asie, c'est beaucoup autour du bonheur national brut, hein. Donc, ils prennent le contre-pied du produit national brut qui est vraiment la création de richesses monétaires pour dire, bon, ce qui est important, en fait, c'est le bonheur national brut, hein, avec ce pays, ce petit pays, le Bhoutan, qui a inscrit ça dans sa constitution. Du côté de l'Amérique latine, c'est le buen vivir, le vivre bien, c'est toute la tradition des Amérindiens, justement, d'une sobriété qui est heureuse, justement.
Renaud est avec nous depuis la Loire. Bonjour, Renaud.
Bonjour. Je voulais intervenir sur le fait du clivage politique qui ne permettra pas de résoudre ce genre de problème, car il faut toujours qu'il y ait une majorité et une opposition. Il faut que l'un ait tort, l'autre raison. On n'en sortira pas. De plus, on perd son temps à voter des lois, malheureusement un peu farfelues, et qui ne résolvent pas le problème, sinon de diviser encore plus les Français. Et dernier point, le rôle des seniors peut être très important, mais il faudrait les mobiliser, car je vois beaucoup de seniors qui se disent maintenant, je suis à la retraite, je suis tranquille, je vis ma vie, j'ai besoin de personne, je fais mes voyages comme je veux, quand je veux, sans s'occuper de son environnement. Et c'est par le spirituel qu'on y arrivera. Il faut pas avoir peur de le dire et de le dire courageusement. Voilà comment je ressens les choses.
Eh ben merci beaucoup Renaud pour votre intervention. Alors ce que vous dites sur les seniors, ça contredit une remarque envoyée par je sais plus qui nous dit chaque génération a su résoudre ses problèmes et globalement de façon positive puisque la race humaine s'est développée. Nous n'avons aucune raison de penser que nos descendants soient plus stupides que nos anciens. Alors faisons confiance aux jeunes. Dominique Lang.
Oui, il faut faire confiance aux jeunes. Ça, c'est, et en même temps, c'est évident. Et c'est pas pour autant qu'il faut leur laisser une poubelle et leur dire débrouillez-vous avec ça. Je crois que, en tout cas, ce qu'on note là, c'est qu'il y a des effets de génération. C'est pas pareil de penser au sens de la vie quand on a fait sa vie, quand on est retraité et qu'on essaye de s'engager, que quand on a 20 ans et qu'il y a tout à construire et qu'on n'a pas tous les leviers et qu'on n'a pas un niveau de vie, etc. Donc il y a des effets de génération et donc on n'entre pas dans cette thématique-là de la même manière. Donc ça, je crois que c'est une des premières choses à repérer. L'autre chose, je pense, pour ne pas nous décourager, pour pas nous baisser les yeux devant la bête, comme si je fais un peu de Bible primaire, dans le livre de Daniel, ce petit prophète perdu qui n'a aucun levier économique, aucun levier politique, mais qui a comme dernier ressort de regarder la bête en face. Voilà. Et de savoir qu'elle va tomber. Il ne sait pas quand, et peut-être qu'il va tomber sur lui, peut-être, mais n'empêche qu'elle tombera. Elle tombera. Et je pense que l'histoire récente nous a fourni des paraboles qui peuvent nous tenir en éveil. Et je pense qu'entre autres, la chute du mur de Berlin en 89 devrait être beaucoup plus active dans nos réflexions, parce que ce mur est tombé pas parce qu'il y a eu 150 millions de personnes qui ont lutté contre, mais parce que depuis 40 ans, des individus, des petits groupes ont dit « j'arrête ». J'arrête. À mon niveau, j'arrête de collaborer à ça, j'arrête d'entretenir ce système, j'arrête de croire à ce qu'on nous vend, et je tiens. Et je tiens le temps qu'il faut, et à un moment donné, il y a une espèce de cristallisation, de fracture qui se fait, on ne sait pas bien quand, on ne le maîtrise pas, mais les murs tombent. Et je pense que c'est un peu ce qu'on peut faire aussi ensemble, et ce qu'on dit les uns et les autres. Il ne s'agit pas tellement de savoir par quelle mécanique on va faire tomber la bête, la question c'est commencer à tenir chacun à notre niveau jusqu'à ce que ça cristallise.
Alors moi, j'avais une question à vous reposer pour rebondir sur ce thème de la décroissance. Il y a un mot qu'on n'a pas encore dit, c'est le mot chômage. Et on est quand même dans une crise économique aujourd'hui où beaucoup de gens vivent dans la précarité, n'ont plus de travail. Si on produit moins de voitures, on voit bien ce qui se passe à Aulnay-sous-Bois, ça fait quand même des gens au chômage. Si alors on produit moins de yaourts, puisque c'est un des exemples d'Hervé Kempf, et qu'on revient à plus de simplicité dans les rayons laitiers, on sait que tout ça fabrique de l'emploi. Non, je dis des bêtises.
Non, Stéphanie Gallet, vous ne dites pas de bêtises, mais nous pouvons avoir une différence d'appréciation sur la façon de présenter les choses.
Donc, non, mais on nous dit quand même que la croissance fait de l'emploi.
Ah, mais on vous le dit. On nous le dit. Et on nous le dit soir et matin, on le lit dans les journaux, les ministres le disent. Eh ben non, tout à l'heure on parlait d'intellectuels et d'économistes qui étaient dogmatiques, et ben ils se trompent puisqu'ils pensent... Alors, en deux mots, et puis on va venir à la question essentielle. Un... Le problème, c'est que la croissance, en fait, du PIB, du produit intérieur brut dont on parlait, elle est toujours associée avec l'augmentation de la productivité du travail. Donc, plus on cherche à avoir de la croissance par la productivité du travail, plus on va devoir, sans arrêt, produire toujours plus parce que chaque unité produite demandera moins de travail. Donc, c'est, en fait, à l'heure actuelle, le système de croissance... et d'inégalités très fortes, qui produit le chômage. Et vous regardez, par exemple, pour les automobiles, je n'ai pas exactement les chiffres en tête, mais on produit, mettons, à peu près 2 millions d'automobiles en France aujourd'hui, avec, j'ai peur de dire des chiffres, j'ai me trompé, mais avec beaucoup moins de travailleurs et d'ouvriers que ça n'était le cas il y a 15 ans. Pourquoi ? Parce que la productivité a augmenté. Donc ça, c'est un facteur absolument essentiel qu'il ne faut pas oublier. Les solutions à ça, parce qu'effectivement, dans fin de l'Occident, naissance du monde, c'est vraiment axé sur cette question des possibilités de faire autrement, d'aller dans cette transition écologique et sociale dont on parlait, c'est réduire les inégalités. J'y reviens, je suis désolé, parce que ça veut dire qu'on répartit, on redistribue, on repartage les richesses collectives. Pour l'instant, il y en a une petite partie, une grosse partie qui est prise par un petit nombre qui va le stocker et va le mettre à Guernesey ou dans les îles Caïmans. Il faut se réapproprier cette richesse collective. Deux, aller vers d'autres indicateurs. Parce que quand on dit augmentation de la productivité du travail, on oublie totalement la productivité environnementale, la productivité énergétique, c'est-à-dire qu'on augmente la productivité du travail et la croissance en oubliant la question environnementale et la question énergétique. Donc il faut aller vers d'autres logiques. Et par exemple, développer, je prends juste un exemple, il y a beaucoup d'exemples, mais par exemple, développer l'agriculture et développer une agriculture paysanne dont on parlait là dans les alternatives. C'est pas seulement planter des pommiers dans les rues de Belfast ou de Paris, mais c'est aussi se battre pour qu'il y ait des jeunes et peut-être des moins jeunes qui retrouvent de la terre, qui puissent avoir accès à la terre.
On sait que c'est compliqué l'accès à la terre en France.
Oui, alors à nouveau, parce qu'il y a des enjeux de spéculation foncière et de voilà. Ça, c'est un exemple. On pourrait parler des économies d'énergie. Réduire la consommation d'énergie. En plus, on consomme beaucoup d'énergie qu'on importe soit d'Arabie Saoudite, le gaz du Qatar, etc., de l'uranium qu'on fait venir au Niger, et puis on se retrouve quand même à faire la guerre au Niger, si j'ai bien compris, et ça nous coûte cher. Alors que si on développait des économies d'énergie, ça va réduire nos importations, donc on va avoir moins de dettes, donc on va avoir des finances publiques moins serrées, donc on pourra créer de l'emploi dans l'éducation, dans la culture, dans la santé, et puis...
Pourquoi on vous entend pas ?
Ben si, un petit peu quand même.
Quand même.
Vous savez, mais moi j'ai l'impression que la société, elle bouge énormément, que les choses bougent en dessous, mais qu'on a, il y a une couche oligarchique, il y a une couche de la caste dominante, il y a une couche de je sais pas quoi, qui tient aussi les leviers des médias, et qui fait que le genre de parole, et je suis pas le seul à tenir, je suis vraiment un, on est trois déjà à être à peu près d'accord, et il y a des dizaines de gens qui sont capables de tenir ce genre de discours. Sauf que, eh ben, on les voit pas beaucoup à TF1, on les voit pas beaucoup à Europe 1, on les voit pas beaucoup dans le Monde, dans le Figaro, et dans les ministères, bah, écoutez, excusez-moi, les ministères, ils sont peuplés de gens qui sont dans le même dogme croissanciste et productiviste, et avec la banque qui est aussi là, il y a un banquier de chez Rothschild qui est dans le cabinet de François Hollande. Ben voilà, ça crée des liens.
Marie-Thérèse est dans le territoire de Belfort. Bonjour Marie-Thérèse.
Bonjour, je voudrais d'abord dire que je suis sur le fond tout à fait d'accord avec ce qui est dit et que ça fait des années que j'ai des comportements écologiques et je consomme à peu près que je ne renouvelle pas les choses tant qu'elles ne sont pas cassées. Bon, ceci dit, je voudrais prendre trois exemples parce que je ne vois pas du tout depuis des années concrètement comment les choses peuvent s'enclencher pour aller vers massivement un système de consommation différent. Alors, premier exemple, les voitures. Les voitures, actuellement, on sait le mal que ça fait, la crise de l'automobile, par rapport aux milliers ou millions de chômeurs avec les sous-traitants qui risquent d'arriver. Alors, prendre les transports en commun, réduire sa consommation, bon, on met des milliers de gens sur le carreau. D'autre part, par rapport à la qualité de vie, les gens ont massivement fui des immeubles, sont allés s'installer à 20 ou 30 kilomètres des villes pour avoir un lopin de terre, avoir une qualité de vie, d'air, de contact avec la nature, etc. Maintenant, ils sont coincés et ils ont besoin d'une voiture pour se rendre au travail. Donc, prendre les transports en commun, c'est très bien quand on habite Paris, Lyon ou Marseille. Prendre des transports en commun quand on habite dans des petites villes, c'est quand même assez poussif. Et quand on habite à l'extérieur des villes, c'est carrément impossible. Et puis, je voudrais prendre encore un autre exemple.
Un dernier, hein.
Ah oui, par rapport à la consommation au niveau de vie, bon, qu'on doive tous baisser dans les pays occidentaux nos niveaux de vie pour que d'autres puissent avoir un niveau de vie minimum. Bon, je pense au tourisme, parce qu'on est à la longueur d'année à la télé, les sports d'hiver et puis les vacances d'été et les voyages. Heureusement que certains encore, je sais que c'est des privilégiés, peuvent aller en vacances au sport d'hiver et voyager. Mais si on baisse notre niveau de vie, on le baisse où et comment? Et alors les milliers de gens ou les millions, je ne sais pas à qui s'occupe.
Alors Marie-Thérèse, on ne nous reste plus beaucoup de temps, donc j'aimerais quand même qu'on vous réponde.
Voilà. On
va vous répondre.
Les milliers de gens qui sont
alors, donc, à quoi devons-nous renoncer pour permettre qu'il y ait une meilleure répartition de la richesse? Qui est-ce qui veut répondre? Allez, Dominique Lang. Parce qu'on a vu, si on ne va pas au sport d'hiver, il y a forcément des gens qui seront au chômage.
Je pense que la question du renoncement est une question compliquée parce qu'on n'est pas en capacité de dire « je vais renoncer volontairement » comme ça, du jour au lendemain. C'est le travail d'une conversion, le renoncement. C'est une conversion personnelle et souvent spirituelle de dire « j'arrête de croire à des choses qu'on m'a dit, j'arrête de courir après des choses qui m'épuisent, j'arrête de multiplier des choses qui me rendent malheureux ». Mais c'est une conversion très profonde. Et donc, poser les questions comme ça a été fait, c'est effectivement très juste, mais ça ne produit pas beaucoup de fruits, à mon avis, parce qu'on pose des questions en restant implicitement dans le modèle actuel. Or, le modèle qui permettrait de changer les choses, aujourd'hui, n'existe pas encore. Il est en cours de construction, en cours d'élaboration, et on ne le voit pas encore. Donc, c'est un saut dans l'inconnu de dire on avance vers un modèle qui est en train de s'ébaucher, qui n'a pas encore atteint la maturité sociale, mais qui, de toutes parts, est en train d'émerger. Et on fait un pari sur cet avenir-là. Et ça, c'est un peu angoissant. Mais c'est sûr que si on pose juste la question des voitures, on ne s'en sort pas, parce que notre modèle actuel demande que tous aient des voitures.
Alors, on a un mail de Michel. Elle nous dit « Notre pseudo-confort de vie est-il un modèle enviable? Nous rend-il vraiment heureux? Le vrai changement ne peut se faire que par un revirement de nos consciences devant le vide que laisse la consommation à outrance et la négligence d'une vie relationnelle vraie, fraternelle et solide. C'est la recherche d'une vie de vraie communion interhumaine qui peut changer les choses. C'est de montrer qu'il est beau de choisir de s'aimer et de se respecter les uns les autres et que c'est cela qui rend heureux durablement. » Je vous voyais acquiescer.
Tout à fait. Moins de bien, plus de lien, dirait Hervé Kempf. Je pense qu'à cette approche de carême, de fait, on est invité à cette démarche de conversion qui nous conduit à plus de sobriété dans nos vies. C'est pas obligatoirement le jeûne, mais plus de sobriété dans nos vies. Et c'est pas parce qu'il y a plus de sobriété qu'on n'est pas heureux. C'est ce que nous apprennent beaucoup de populations françaises, mais beaucoup de populations du Sud, qui, dans des conditions beaucoup plus sobres, justement, vivent et développent un bonheur que beaucoup d'entre nous aimerions avoir.
Hervé Kempf. dernier mot ?
Oui, bah un peu dans la même idée, parce qu'il ne faut pas oublier que le monde dans lequel on vit, qui crée du chômage, les gens ne sont pas très heureux avec ce niveau de confort. On a une consommation de tranquillisants et de médicaments psychotropes record, il y a un très grand nombre de suicides, enfin, on sent notamment dans les entreprises, il y a un malaise qui est très important dans nos sociétés. Donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on dit on n'a pas les solutions parfaites ? Et c'est vrai, je crois que personne ne peut dire on a la solution, mais la solution elle n'est pas, elle ne va pas tomber toute cuite du ciel, il faut qu'on la fasse et qu'on rentre dans cette aventure. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi les mots de Dominique Lang, dans cette aventure de conversion. On voit que le monde actuel n'est pas bien. Bon, ben, on regarde la bête, on a peur d'elle, on ne sait pas. La bête, ça pourrait être le changement aussi. On est des petits prophètes, on est des colibris aussi, pour reprendre une image de Pierre Rabhi. Eh ben, on est là. Et on rentre dans cette conversion en prenant le risque que, oui, le monde va basculer, va changer, ça va être difficile. Mais on sent bien que continuer, moi je crois finalement que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que continuer dans la voie actuelle est en fait beaucoup plus dangereux que de prendre le risque de l'incertitude, mais du changement.
Et ben voilà, c'est la fin de cette émission avec cet appel à la conversion et à la marche, juste avant le carême. Vous voyez, on aura fait notre émission de préparation de carême dans le temps de le dire aussi. Merci beaucoup à tous les trois. Alors, le CCFD, il y a un site internet pour préparer son carême, par exemple. Merci Bernard Pinault. Dominique Lang, on vous retrouve dans Pèlerin, entre autres, et on espère qu'un jour les cahiers de Saint-Lambert revivront. On espère, bon d'accord. Et Pierre Wekempf, surtout, il faut lire, hein, c'est publié aux éditions du Seuil, Fin de l'Occident, Naissance du Monde, et il y a aussi le site Reporter, vous trouverez tous les liens et les informations sur le site internet de RCF. Vous pouvez aussi réécouter l'émission. Voilà, merci beaucoup messieurs. Demain, journée spéciale sur RCF, toute l'équipe se rend à Saint-Étienne, où il y aura toutes les émissions en lien avec l'équipe de RCF Saint-Étienne. Bonne journée à tous.